Le fantastique Hoffmann par Jules Chancel. Si les ouvrages de Hoffmann ont été qualifiés de fantastiques, l'existence de l'homme mérite également ce qualificatif. Ne fut-il pas en effet fantastique ce personnage qui sut réunir en un seul individu un littérateur, un compositeur de musique, un chef d'orchestre et un dessinateur? Hoffmann fut en effet tout cela sans cesser d'exercer sa profession de magistrat. Cet homme universel naquit à Königsberg le 24 janvier 1776. Il a naturellement raconté longuement son enfance dans ses écrits, et cela de façon délicieuse, mais un peu inquiétante tout de même pour le bon équilibre de son esprit. C'est ainsi qu'il décrit, dans une de ses lettres, une certaine soirée chez ses parents, au cours de laquelle un avocat, ami de la famille, s'était amusé à découper des silhouettes et à les projeter en ombre chinoise sur les murs. Ce petit jeu suffit à faire immédiatement délirer son imagination d'enfant. Ses ombres évoquèrent aussitôt dans son esprit des souvenirs mystiques. Il voit sa tante la religieuse, la nonne musicienne qui était morte et qu'il avait beaucoup aimée. Il frémit en devinant, parmi les silhouettes, l'ombre grotesque de son oncle et il se met à sangloter. On démêle tout de suite, dans ses exagérations maladives, la disposition fantasque de cet enfant qui ne peut voir une silhouette sur un mur sans évoquer la mort et les hallucinations de la musique. La musique, ce fut une des grandes passions de sa vie. Il fut élevé au milieu de ses accords. Son père jouait de la viole de gambe et s'étant chéri du clavecin dans cette vieille maison de la rue de France où il passa son enfance. Elle eût été heureuse, cette enfance, en dépit de la séparation qui intervint entre son père et sa mère. Elle eût été heureuse s'il n'avait pas eu un oncle. Oh, cet oncle, c'était son cauchemar. Cet oncle Otto s'était mis dans la tête d'élever son neveu et il le tyrannisait, avec les meilleures intentions du monde, sous prétexte de remplacer son père défaillant. Cet oncle était un petit homme ventru, aux idées étroites, qui s'était imaginé de régler minutieusement la vie de son gamin de neveu selon le programme d'éducation de Kant qui était alors à la mode. Lever, coucher, repas, promenade après les repas, etc., etc. Oh, ces promenades, imposées dans le grand jardin, qui s'étendait derrière la maison. Comme elles auraient paru lugubres à l'enfant, si la débordante imagination n'avait réussi à les occuper agréablement. Quand Ernest eut 6 ans, l'oncle songea à son éducation et il l'envoya à l'école luthérienne où le latin était très en honneur. L'enfant y fit figure d'écolier peu sociable. Il vivait seul, redouté de ses camarades, qu'il criblait de ses boutades et de ses railleries à l'emporte-pièce. Sa grande joie, c'était ses leçons de piano que lui donnait l'organiste Podbieski. Le professeur était, avec raison, stupéfait des progrès réalisés par son élève. À 7 ans, celui-ci transposait tout seul un morceau qui lui avait paru trop difficile dans un ton et qu'il avait mis dans un autre. L'oncle Otto, au lieu d'admirer ce tour de force, le punit et s'opposa à ce que fût poussé plus loin l'éducation musicale de ce gamin si prodigieusement doué. Vers 11 ans, Hoffmann montra pour le dessin les mêmes aptitudes que pour la musique. Il faisait des caricatures magistrales, d'instinct, et sans qu'on lui donnât les moindres principes. Heureusement, à cette époque, le terrible oncle Otto se dérangea. Il se mit à quitter la maison, laissant plus de liberté à Hoffmann et à son ami, le petit Hippel, qui était censé venir travailler avec lui. Au lieu de traduire Xénophon ou Virgile, Hoffmann s'avisa de piocher dans la bibliothèque de l'oncle. Les deux enfants ouvrirent le voyage sentimental de Goethe et se passionnèrent pour la tristesse de Werther, mais ce qui les séduisit le plus, ce furent les confessions de Rousseau. Ces lectures étaient coupées par des escalades le long du mur qui séparait la maison d'un pensionnat de jeunes filles avec lesquelles on ébaucha quelques correspondances. Hoffmann se désespérait parce qu'on lui avait dit qu'il était laid, et en effet, son visage était tourmenté, sa tournure peu élégante, mais ses yeux, si expressifs, lui donnait un charme qu'il ignorait. « Puisque je ne suis pas assez beau pour plaire, s'écria-t-il avec rage, je voudrais être un monstre de laideur afin que ces demoiselles soient forcées de faire attention à moi. » Toujours les exagérations d'un caractère outrancier. C'est l'adolescence. Hoffmann étudie Kant comme tout jeune Allemand de cette époque, mais en même temps, il peint des tableaux qu'il distribue aux jeunes filles ses amis et fait de la musique avec acharnement puisqu'il donne déjà des leçons aux dames. Mais cette belle vie ne dura pas. Le jeune homme perdit en quelques mois son père et sa mère et se vit obligé de quitter Königsberg. Les années errantes allaient commencer. En dépit de ses occupations multiples, Hoffmann avait réussi à passer l'examen de l'administration judiciaire et avait obtenu, en 1795, grâce à l'appui de son ami Hippel, un emploi d'auditeur à la régence de Königsberg. Peu de temps après, celui de référendaire à la Cour suprême de Berlin. Ainsi qu'on le voit, sa carrière s'annonçait rapide et brillante, mais une gaminerie de l'artiste vint nuire à l'avancement du magistrat. Un conflit, comme il s'en est toujours produit en Allemagne, entre l'élément civil et l'élément militaire, avait éclaté à Posen, et le général von Sassot avait déclaré qu'il se chargeait de mettre au pas tous ces robins qui prétendaient le défier. Mais les robins ne se laissèrent pas mettre au pas, et Hoffmann, surtout, jura de se venger. Durant tout l'hiver, il dessina des caricatures que ses amis reproduisirent à plusieurs exemplaires, et au premier bal du carnaval, deux d'entre eux, déguisés en colporteurs italiens, distribuèrent ses dessins à la société. Tout le monde se disputa la caricature du général von Sassot, déguisé en petit tambour et battant le rappel avec deux cuillères sur une théière. Le général fut furieux et se plaignit au roi. Une enquête fut ordonnée, mais on ne put découvrir le vrai coupable. Cela n'empêcha pas le vindicatif général d'obtenir le déplacement de la plus grande partie des hommes de loi de la ville, qu'il soupçonnait d'être les auteurs de la fameuse caricature. Hoffmann, naturellement, fut une des victimes, et on le nomma dans un effroyable trou de Pologne, qui s'appelle Plock, aux modiques appointements de 800 écus par an. Effrayé à l'idée de se rendre tout seul dans ce désert, Hoffmann se décida à écouter une de ses amies qui s'était mis dans la tête de le marier, et le 26 juillet 1802, il épousait une jeune fille douce et jolie qui, pour lui, avait le principal avantage de parler polonais. Il devait d'ailleurs la rendre parfaitement malheureuse. A-t-il assez gémi contre son exil de Plock? Les a-t-il regrettés, ces malheureuses caricatures? On trouve, dans ses lettres à ses amis, des descriptions effroyables de cette petite ville de 3000 habitants, où les porcs divaguent par les rues, et où l'on faisait de si mauvaise musique chez ce monsieur Reichenberg, qui n'était même pas capable de tenir convenablement sa partie dans un quatuor. Heureusement, ou malheureusement pour l'exilé, il y avait dans ce trou un cabaret qui s'appelait La Ressource, où l'on mangeait du caviar et où l'on buvait du vin de Hongrie. C'est dans ce cabaret qu'Hoffmann prit l'habitude de boire, mais entre deux pots, il commença cependant à écrire dans l'Indépendant de Kotzebue. Il y publia une lettre d'un moine à son ami de la capitale, qui peut être considérée comme son début dans la littérature. En même temps, il prenait part à un concours de pièces de théâtre dotées d'un prix de 100 pièces d'or, qui aurait bien certainement fait son affaire s'il l'avait gagné. Hoffmann fut classé le premier, mais le directeur du concours, un habile homme, déclara qu'aucune des pièces n'était digne du prix et garda l'argent. Petit à petit, dans l'oisiveté de cette petite ville, nous voyons naître et se développer les facultés fantastiques de Hoffmann, et il note lui-même, dans son journal, ce que certains de ses biographes ont appelé les prémices de sa folie. Le 3 octobre, il écrivait, après avoir feuilleté un livre sur la magie, « Il faudra un jour que je construise un automate pour l'édification de mon âme. » Le 6 janvier, jour des rois, but du vin de l'évêque. État de tension effrayante le soir. Tous mes nerfs excités par le vin épicé. Hanté par les avertissements de mort, par les doubles, comme le dit Hamlet, il y a plus de choses entre le ciel et la terre que n'en soupçonne notre philosophie. Malgré ce commencement d'hallucination, Hoffmann se tourne de plus en plus vers la musique. Au mois de juillet 1805, sa femme met au monde une fille. Il l'appelle Cécile, en souvenir de la patronne des musiciens, et compose, en son honneur, une messe solennelle. Puis il écrit, coup sur coup, deux opéras comiques, Le Joyeux Musicien et Le Chanoine de Milan. Pendant l'hiver, il préside à la fondation de l'Académie de musique de Varsovie et s'improvise chef d'orchestre. Le voilà lancé à fond sur ce nouveau dada. Il manque une salle à son orchestre. Il en trouvera une et se met en tête de la décorer lui-même. Parfois, les plaideurs, lassés de l'attendre en vain au tribunal, venaient le chercher dans cette salle et ils le trouvaient vêtu d'une blouse grise et perché sur le haut d'un échafaudage. Hoffmann, sollicité ainsi par ses différentes passions, disait avec humour « Il faudra tout de même que je demande au grand chancelier ce que je dois choisir, la peinture ou bien la musique. » On le voit, il n'était pas question du droit. D'ailleurs, des événements imprévus se chargèrent de répondre à ces questions. Le 28 novembre 1806, les armées françaises entraient à Varsovie. la Pologne devenait indépendante et les fonctionnaires prussiens se trouvaient brusquement jetés sur le pavé. On va voir que c'est ce coup du sort qui lança définitivement Hoffmann, non pas vers la peinture, ni vers la musique, mais vers la littérature. La vie de Hoffmann à Varsovie devint plus que précaire. Il logeait dans une mansarde de son ancienne salle de musique et mangeait chez les religieux les jours où il chantait les offices. Le reste du temps, il le passait dans une guinguette à regarder Napoléon défilant à la tête de ses troupes. S'il avait été seul, cette existence eût été à la rigueur possible, mais il avait la charge de sa malheureuse femme et de sa fillette. Aussi l'excès de ses difficultés le rend malade. Sa maladie, il est vrai, est toute spéciale. Il a la fièvre, et cette fièvre se traduit chez lui par un état d'excitation cérébrale extraordinaire. Cet après-midi, explique-t-il à son médecin, qui lui tâtait le pouls avec inquiétude, « J'ai entendu la flûte enchantée. Je vais vous l'expliquer. » Et il commenta toute la partition de Mozart avec une parfaite clarté. Il ne la connaissait pas. Quelques mois plus tard, la situation devint encore pour lui plus critique. Sa fille Cécile meurt et sa femme est gravement malade. Il n'a pour subsister que le produit des dessins et des caricatures qu'il vend pour quelques sous aux soldats. Une annonce dans un journal, par laquelle il sollicitait un emploi de chef d'orchestre, lui fait faire connaissance avec le directeur du théâtre de Bamberg. Celui-ci lui envoie un livret d'opéra comique en le priant d'en écrire la musique afin qu'il puisse se rendre compte de son talent. « Comme c'est commode, écrit la musique quand on meurt de faim. » Hoffmann en était là. Il restait des 5 jours entiers en ne mangeant qu'un petit morceau de pain, et ce fut dans cette période de demi-hallucination qu'il rêva son entrevue avec le chevalier Gluck, qui était mort depuis 20 ans. Enfin, le contrat le nommant chef d'orchestre à Bamberg est signé. Il passe, on ne sait comment, les 2 mois qui le séparent de la date du 25 septembre, et prend possession de sa place. Il se lance avec une fougue infernale dans son nouveau métier. Il est à la fois chef d'orchestre, régisseur, compositeur, librettiste, décorateur, mais hélas, tout ce travail n'empêche pas le théâtre de faire de mauvaises affaires et de fermer quelques mois plus tard. Voilà de nouveau Hoffmann sur le pavé, sans emploi et sans un sou en poche. Alors il se retourne vers la littérature et écrit pour une gazette musicale de Leipzig une série d'articles qui furent bientôt remarqués. C'était ses observations sur Beethoven et enfin ses morceaux fantastiques à la manière de Callot. On le renomme chef d'orchestre du théâtre de Dresde. Il y court, mais Napoléon le suit de près et entre à Dresde comme il était entré à Varsovie. C'en était trop. Hoffmann, furieux contre ce concurrent qui semblait le poursuivre personnellement, se met au gage d'un marchand d'estampes de Leipzig et dessine pour lui une série de gravures vengeresses contre Napoléon. Ses amis s'étaient pourtant émus de la détresse du général malchanceux et arrivèrent à le faire réintégrer dans ses fonctions administratives. C'était la fin de ses misères. Il put dès lors écrire dans des conditions normales et donne successivement les élixirs du diable où se développe déjà la thèse si à la mode actuellement du dédoublement de la personnalité. En 1819, nouveau cataclysme. Il est désigné, en sa qualité de conseiller, pour faire partie d'une commission chargée de juger les étudiants coupable de libéralisme. Il refuse avec dignité de se soumettre aux ordres de ses chefs, qui prétendaient lui imposer des jugements, et aussitôt on le relève de ses fonctions. C'était la destitution, mais hélas, elle n'était plus à craindre pour lui. Depuis 15 jours, Hoffmann était très malade. Usé par les excès de boisson, vieux à 40 ans, il souffrait cruellement. Le 24 janvier, jour de son anniversaire, ses amis s'étaient réunis chez lui. Il était assis dans un fauteuil, pouvant à peine bouger. Au cours de la conversation, quelqu'un vint à dire que la vie n'était pas le plus précieux des biens. Alors Hoffmann se souleva de son fauteuil et s'écria « Non, non, vivre, vivre seulement, à n'importe quel prix !» La paralysie était devenue complète. Hoffmann ne désarme pas encore. Il exige qu'on lui fasse un traitement terrible qui consistait à lui appliquer des fers rouges tout le long de la moelle épinière. La nuit, ses plaies se rouvrent et il appelle son garde, non pour le soigner, mais pour lui dicter la suite de son dernier manuscrit. Au matin, il était mort. Sa succession était déficitaire. Ses créanciers firent vendre ses meubles et jusqu'à son bel uniforme brodé de conseiller. Ainsi se termina cette vie effroyable d'un génie universel. Jules Chancel.